octobre 2013, votre magazine Okapisport aura 10 ans. Vos critiques, remarques, suggestions et attentes sont les bienvenues. Écrivez-nous à l'adresse email suivante sport10ans@radiookapi.net ou déposez votre courrier au bureau de la Monusco le plus proche de chez vous. Les meilleures critiques, remarques, suggestions, anecdotes et faits marquants d'Okapi Sport selon vous seront primés. La passion du sport, c'est Okapi Sport.
Comment promouvoir les cantines scolaires en RDC? On en parle avec le docteur Freddy Bakata. Il est médecin spécialiste en santé publique, mais il est également responsable, vous êtes responsable d'une ONG qui s'occupe aussi de la promotion des cantines scolaires, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Et c'est quoi le nom de l'ONG?
L'ONG s'appelle l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement.
Voilà, avec vous, on va développer à ce sujet comment promouvoir les cantines scolaires. Nous rappelons nos numéros pour ceux qui veulent bien intervenir. Rappelez-nous au 081 890 6094 ou envoyez-nous un SMS au 081 711 5001. Certaines écoles en RDC, peut-être vous le savez, ont instauré des cantines scolaires pour attirer plus d'enfants à venir à l'école. D'après les spécialistes, ce programme accroît le nombre d'enfants et contribue à des bons résultats scolaires. Avec notre invité, on va parler de tout cela, mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, peut-on savoir qu'est-ce qu'on entend par une cantine scolaire?
Oui, les cantines scolaires, c'est un programme de Programme alimentaire mondial, le PAM. Pour sa genèse, je dirais que ce programme a d'abord commencé dans des pays développés il y a depuis très longtemps. C'était des programmes qui étaient destinés aux enfants qui avaient des besoins spécifiques. Mais le Programme alimentaire mondial a constaté, surtout que dans des pays du tiers-monde, il y avait plus ou moins 66 millions d'enfants qui allaient à l'école d'une façon sous-alimentée. Ils ne prenaient rien le matin, l'attention n'était pas soutenue pendant les cours, ils dormaient, ils luttaient contre le sommeil.
Et ventre affamé, on a du mal à suivre les leçons.
Exactement, exactement. Alors c'est ainsi que parmi ces 66 millions d'enfants à travers le monde qui vont à l'école ventre vide, il y en a, on compte à peu près 23 millions en Afrique. Et depuis une quarantaine d'années, le Programme alimentaire mondial a initié ce programme en Afrique. C'est ainsi que les cantines scolaires ont vu le jour. Et en Afrique subsaharienne, le Kenya, c'est l'un des pays qui a vu ce programme naître. Mais qu'est-ce qu'on appelle exactement cantine scolaire? Oui. Au fait, ce sont des repas qu'on donne dans des écoles primaires. Des repas qu'on donne pour pouvoir donner de l'énergie à l'enfant, pour qu'il soit attentif au cours et pour améliorer les taux d'acidité à l'école et améliorer le rendement scolaire aussi. Donc, si vous voulez, ce sont des repas qu'on donne.
Des repas qu'on donne à quel moment? Pendant la récréation?
Voilà, selon notre expérience que nous avons à Ituri avec le Programme alimentaire mondial, nous avons instauré les cantines scolaires dans plusieurs écoles de territoire de Mambasa, Irumu et Djougou. En fait, on donne les repas à 10h, entre 10h30 pendant la récréation et 11h. Et les repas sont constitués de quoi? Les repas sont constitués de céréales, le riz ou la farine, d'une légumineuse, soit l'haricot ou les petits pois, de l'huile végétale et des sels iodés. Et ces repas, on les prépare en commun avec le comité de parents, si vous voulez. Et il y a un certain nombre de critères d'abord qui sont mises en œuvre pour pouvoir sélectionner une école, pour enrôler une école dans ce programme de cantine scolaire. Entre autres critères, et pendant qu'on fait les évaluations, il faut que l'école soit une école agréée, reconnue par l'État. Oui. Il faut que ce soit une école primaire qui a des infrastructures scolaires solides. Il faut que ce soit une école qui peut disponibiliser d'un bâtiment qui servirait d'hangar pour stocker ses repas. Il faut que ce soit une école primaire qui a des latrines, des toilettes propres pour que les enfants puissent aisément se retirer pour faire leurs besoins. Il faut aussi que ce soit une école qui a une source d'eau à quelques mètres de là, ou bien des robinets pour que les enfants, après avoir mangé, qu'ils lavent les mains, ou avant de manger, qu'ils lavent les mains. Donc voilà un peu un ensemble de critères qu'on spécifie, qu'on identifie avant de pouvoir sélectionner une école.
Et voilà, vous avez parlé du district de l'Ituri, en province orientale. Vous travaillez dans trois territoires. C'est dans combien d'écoles vous êtes dans l'ensemble de ces trois territoires?
Voilà ce que je peux vous donner comme effectif. Durant l'année scolaire 2012-2013, dans les territoires de Dungu, nous avons eu 53 écoles. Dans les territoires de Mambasa, 37 écoles, ce qui donnait un effectif de 23 543 élèves dans les territoires de Djougou. À Mambasa, c'est 19 343. Et pendant l'année scolaire actuelle, 2013-2013, outre ces deux territoires là-bas, nous sommes aussi dans les territoires d'Irumu, où nous gérons 62 écoles et qui donnent un effectif de 26 441 élèves.
Et dans toutes ces écoles, les cantines ont fonctionné normalement pendant toute l'année scolaire.
Oui, les cantines.
Les enfants ont vu chaque jour le repas.
Oui, les enfants reçoivent chaque jour le repas à partir de 10h30 à 11h pendant 30 minutes. En fait, c'est l'heure qui était prédestinée pour la récréation. Ils prennent le repas pendant ce temps.
Alors là, peut-être c'est l'occasion pour nous de parler de excusez-moi, de l'importance de la cantine scolaire, parce que là vous avez cité six écoles où vous donnez des repas, c'était durant toute l'année scolaire. Et c'est quoi finalement l'importance de ces cantines scolaires?
Oui, les objectifs qui sont visés par l'instauration de ces cantines scolaires, c'est entre autres maintenir et accroître les taux d'inscription dans l'enseignement primaire. Maintenir et accroître aussi un taux de fréquentation scolaire régulier, fournir un repas chaud qui maintiendrait l'attention de l'enfant pour qu'il suive très bien le cours.
Mais pas trop manger quand même. Hein?
Non, pas trop manger.
Juste pour permettre à l'enfant...
L'organisme prend ce dont il a besoin. On ne va pas au-delà. Oui. Et puis, contribuer à la relance des activités éducationnelles, enrayer la déperdition scolaire et en particulier celle des filles. Améliorer la qualité de l'enseignement primaire. Voilà, entre autres, les objectifs qui sont visés dans ce programme de cantine scolaire.
Ça c'est évident, hein. Lorsqu'on a une école où on s'est donné de repas aux enfants pendant la récréation, c'est évident que beaucoup de parents, si les moyens le permettent, aimeraient bien inscrire leurs enfants dans ce type d'école, ça c'est évident.
Oui, bien sûr, bien sûr. On a remarqué, par exemple, dans les territoires de Mambasa, où nous avons nos compatriotes pygmées, qui avant ce programme n'allaient pas très souvent à l'école parce qu'ils allaient faire la chasse, la pêche ou quoi. Mais maintenant, les taux de fréquentation a sensiblement augmenté. Tous les enfants veulent aller à l'école parce qu'il y a un effet attractif en allant à l'école. Ils auront un repas. Alors que vous savez, avec nos familles pauvres où la plupart des parents vivent avec moins d'un dollar par jour, il n'est pas évident qu'un enfant puisse avoir un repas le matin. C'est parfois un repas durant toute la journée et de quelle qualité. Donc les enfants qui savent qu'en allant à l'école, ils auront un repas sûr, ont un effet attractif, ils vont vite aller à l'école. Et puis, on a constaté que très souvent, au lieu que les parents réveillent les enfants pour les préparer pour aller à l'école, très souvent ce sont les enfants qui se réveillaient eux-mêmes, qui étaient déjà prêts et qui demandaient aux parents de les amener vite à l'école. Et puis, pendant ces 5 années de gestion de ce programme à Ituri, on a pu constater que même certains élèves, certains écoliers, qui pour des raisons disciplinaires ont été chassés de l'école en guise de punition, ont dit « bon, rentrez, vous avez fait ceci », mais l'enfant, il traînaille dans la cour de l'école, juste attendant qu'il ait son repas avant de rentrer. rentrer à la maison. Donc l'impact est réel et les résultats sont probants.
Bah, docteur Fridi Mbakata, vous êtes un médecin spécialiste en santé publique. Vous parlez du comment promouvoir les cantines scolaires. Nous avons déjà des auditeurs en ligne parce qu'il s'agit d'une émission interactive où les auditeurs peuvent appeler. Donc nous rappelons nos numéros pour de contact, c'est les 081-890-6094 pour les appels et pour les SMS, c'est les 081-711-5001. Vous pouvez donc intervenir par rapport à ce sujet, comment promouvoir les cantines scolaires en RDC.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Pascal Ngoy nous appelle de Moneditu dans le Kassai Oriental, Chitoko est à Lubumbashi dans le Katanga, Ogi Bendelo est à Kikwi dans le Bandundu. Pascal Ngoy, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Voilà, donc ma question est la suivante. Il y a bien des cantines scolaires que le lycée, en fait, que votre intervenant est en train de développer. Moi, j'ai un constat à faire. Cela ne peut pas favoriser certains problèmes dans les foyers. On sent que quand on veut distribuer les nourritures aux enfants à partir de l'école, ces enfants là-bas mangent d'une manière séparée ou bien d'une manière collective, parce que vous savez, nous sommes en Afrique, la sorcellerie, ça fait partie des problèmes de la société. Alors, il n'y a pas de risque là-bas, monsieur le journaliste, c'est ça la question. Et enfin, je peux d'abord demander à votre intervenant, je peux d'abord payer ou bien il a payé.
Pascal, on n'arrive plus à vous saisir. Là, vraiment, on a du mal à suivre la dernière partie de votre question. Si vous voulez vous déplacer un peu, peut-être que ça va marcher hein, pour qu'on puisse bien vous écouter. Ça permettra à l'invité de bien répondre à votre question. Pascal, allez-y, c'était quoi la deuxième question?
Voilà, ma question est la suivante. Hein. Je dis que qu'est-ce que votre intervenant peut faire afin de parvenir aux enfants, je ne sais pas, au problème de la sorcellerie, parce qu'en étudiant les nourritures, ça peut arriver que les enfants qui sont à côté peuvent changer les nourritures et parfois, il y a un problème de la transmission de la sorcellerie.
Ben ça, on avait compris. La deuxième question, c'était laquelle, la deuxième question?
La deuxième question?
Oui.
La deuxième question, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous ne puissions pas tomber dans des problèmes tels que il y a de la transmission, donc, de la sorcellerie.
D'accord, merci.
Ou bien on peut faire comment les enfants qui sont dans l'état de classe.
Merci, Pascal Ngoy. Vous appelez de Mouenedit dans le Kassai Oriental. Chitoko, vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour, Chitoko. Chitoko, bonjour. Chitoko, bonjour. Bon, on l'a perdu, hein, Chitoko. On pourra le retrouver plus tard. Augustin, Ogi Bendelo, j'allais dire, vous êtes à Kikwit dans les Bandundu. Bonjour, Ogi.
Bonjour, oui. Notre invité, docteur Mbakata, merci de m'avoir accordé la parole. J'ai suivi notre invité lorsqu'il a parlé de cantine scolaire. Alors, mon inquiétude est surtout sur les critères, M. Marcel. Notre invité a dit que ce système est destiné aux enfants qui ont des besoins très spécifiques. Et il a dit, parmi les critères, ce que j'ai retenu, il a dit qu'il faut que l'école soit agréée et reconnue par l'État. Il faut que ça soit une école qui a des latins. Il faut que l'école... Et il faut que ce soit une école qui a une source d'eau ou des robinets. Bon, je voulais poser la question à l'invité. Pour qu'une école remplisse tous ces critères, c'est une organisation locale qui doit faire que l'école ait tous ces critères ou bien c'est l'État qui doit en faire. Et déjà, je voulais poser la question à notre invité de savoir ce système se trouve dans combien de provinces déjà ou territoires dans notre pays. Et pour terminer, M. Marcel, je voulais aussi poser la question à notre invité. Parce que ce qu'il dit là, c'est du 9-1 chez nous ici à Kikwit. Et si chez nous, Kikwit, c'est une chose nouvelle, à combien plus forte raison ceux qui sont dans les coins et les coins de notre étendue nationale. Je voulais poser maintenant la question de savoir comment est-ce que le système pourra avoir d'ampleur sur toute l'étendue nationale. C'était là mes trois questions, M. Marcel, je vous remercie.
Alors, merci à vous aussi, hein, Ogi Bendelo, vous appelez de Kikwit dans le banc de Benjamin Bizouri. Vous êtes à Bukavu, dans le sud Kivu. Bonjour, Benjamin.
Oui, bonjour, c'est Benjamin Bizou de Kikwit. J'ai trois questions à poser à l'invité.
Oui.
La première, j'aimerais demander comment est-ce que se fait le choix des aliments dans les cantines scolaires. Deuxième question, j'aimerais savoir, est-ce que la cantine scolaire est une mesure compensatoire ou un facteur pour construire une société égalitaire au moins, une société uniforme, donc, voulais-je dire. Et la troisième question, j'aimerais savoir comment est-ce que le cantine scolaire contribue-t-elle au maintien et à l'amélioration des performances scolaires des élèves. C'est ça mes trois questions que je voulais poser en invité. Merci.
Merci à Benjamin Bizouri. Vous appelez de Bukavu dans le Sud Kivu. On revient à vous, à Dr. Freddy Bakata. Vous avez suivi ces questions et préoccupations de nos auditeurs. Il y a Pascal qui a appelé du Moni du Tout dans le Kassai Oriental. Lui, il évoque la sorcellerie. Il dit, est-ce que vous ne craignez pas le fait qu'il y ait des cantines scolaires dans des écoles et par rapport à toutes les idées reçues sur la sorcellerie que ça pose des fois problème avec certains foyers?
Eh bien, avant de répondre à toutes ces questions, j'aimerais faire une parenthèse. J'ai dit que c'est un programme de d'IPAM, de Programme Alimentaire Mondial. Normalement, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un de PAM pour répondre à toutes ces questions. Mais étant en partenariat avec le PAM, c'est voilà. À ce titre-là que j'interviens. Donc, mes propos n'engagent que notre ONG, n'engage nullement le PAM. Alors, voilà. Quant à ce qu'il dit, les craintes qu'il formule pour la sorcellerie, il doit d'abord savoir, notre ami, que ce programme est à base volontaire. Si vous êtes un parent, si vous êtes sûr que vous avez des moyens pour bien alimenter votre enfant, que votre enfant, quand il quitte l'école, il a très bien mangé, vous pouvez notifier à l'école pour dire que moi, mon enfant, ne prendra pas ce repas-là à l'école parce que la famille fournit ce repas. Mais l'expérience que nous donnons avec notre ONG, ce sont des écoles qui se trouvent dans les milieux ruraux et surtout dans des territoires post-conflit où il y a encore parfois maintenant des conflits. Et
excusez-moi, pour votre ONG, pour les cas de votre ONG, les parents contribuent également pour acheter de...
Oui, exactement. Les parents contribuent. Les parents, c'est-à-dire avant d'installer, quand une école est prise dans ce programme, pendant les évaluations, et les PAM, et les partenaires du PAM, c'est-à-dire l'ONG, et l'école... on travaille ensemble. Les comités de parents est consulté. Les comités de parents aide à fournir, par exemple, des femmes qui vont pouvoir préparer ces repas là-bas, parce que le Programme Alimentaire Mondial et son partenaire, l'ONG, ne donnent que des aliments qui ne sont pas préparés. Ce sont les parents, les comités de parents qui donnent des cuisinières qui vont pouvoir préparer ces repas. Donc, les parents sont associés. Et à ce stade-là, un parent qui craindrait qu'on puisse avoir une sorcellerie à grande échelle ou quoi là, il peut dire que mon enfant n'entre pas, mais qu'il puisse bien se prémunir de certains facteurs. Il faudra que son enfant soit régulièrement alimenté, parce que si son enfant vient à l'école en situation de sous-alimentation, il sera défavorisé par rapport aux d'autres enfants qui ont de l'énergie en prenant ce repas-là. Donc, ce n'est vraiment pas obligatoire, et je ne vois pas, même s'il y a des sorciers, même si nous vivons dans une société africaine où la sorcellerie existe, qui n'est l'ensemble des parents, les comités et un organisme du système des Nations Unies comme ça puisse organiser une sorcellerie à grande échelle pour servir 1000 élèves ou quoi là. Non. Vraiment qu'on se départisse de ces petites idées, mais le programme est à base volontaire. C'était la réponse que je pouvais donner à notre ami.
Alors, Guy Bendevoa qui a parlé des écoles, des conditions pour qu'une école puisse bénéficier des cantines scolaires, c'est pas la question de savoir, mais est-ce que c'est l'État qui doit faire ce que les écoles puissent remplir ces conditions, ou bien c'est par exemple des ONG qui peuvent également les aider?
Oui, en principe, l'idéal aurait été, parce que nous parlons parmi les critères, une école qui est reconnue et agréée par l'État. L'idéal aurait été que le promoteur de l'école, si c'est une école, par exemple, appartenant à une église quelconque, ou une école privée qui a été agréée, que le promoteur puisse mettre toutes ces conditions. Et d'ailleurs, nous travaillons aussi avec les responsables de l'enseignement primaire. Pour sélectionner une école, on voit tous ces critères. En principe, c'est le promoteur de l'école. Si c'est une église, c'est l'église. Si c'est l'État, c'est l'État. Il doit mettre toutes ses infrastructures dans une école. Mais nous passons pour vérifier, parce qu'il ne faudra pas qu'on donne des aliments, des repas aux élèves alors qu'il n'y a pas de latrine. Tout de suite après, ils auront des besoins, ils ne savent pas où est-ce qu'ils doivent se retirer, ils vont dans la nature. Et il faudra qu'avant qu'on prenne ces repas, parce que dans certaines écoles, selon les moyens des parents ou les moyens que l'ONG ou le PAM met à la disposition, on peut prendre ces repas à la main. Il faut que les mains soient bien lavées, il faut qu'il y ait de robinets, et il faut qu'il y ait du savon, des serviettes, des toilettes pour essuyer les mains. Donc, il faut tout un ensemble de critères qu'on doit suivre pour ne pas exposer les enfants à des épidémies, à des maladies diarrhéiques suite à ces repas-là qu'on donne à l'école.
C'est la grande question. Vous avez suivi Guy, hein, qui a dit qu'à Kikuit, c'est du neuf pour lui. Il n'a jamais vu à une école à Kikuit avec cantine scolaire.
Ah oui, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. J'ai dit au début que c'est un programme nouveau en Afrique. L'un des pays qui a subsaharienne qui a bénéficié de ce programme, c'est le Kenya. Et ici, dans notre pays, le programme alimentaire mondial, malgré ses ambitions, l'ambition du programme alimentaire mondial est qu'il n'y ait jamais un écolier qui puisse aller à l'école ventre creux, ventre vide. Mais entre l'idéal et les moyens dont on dispose, il y a toujours un gap. Il n'y a pas assez d'argent pour couvrir toutes les écoles à la fois. C'est comme ça, je pense, dans les chefs de responsables de programme alimentaire mondial, ils ont voulu commencer dans des régions post-conflit, là où il y a eu beaucoup de problèmes, parce que dans ces régions, dans ces territoires là-bas, toutes les infrastructures scolaires, sanitaires, ou même l'agriculture, les champs et tout a été dévasté, et il faudra aider ces écoliers-là pour qu'ils soient à la page, qu'ils étudient dans de bonnes conditions. Mais je sais que les moyens s'améliorant, ce programme pourra s'étendre un jour un peu partout au pays, eu égard aux bons résultats qu'on est en train d'obtenir. Peut-être qu'il ne serait pas surpris que notre ami de Kikuit puisse voir ce programme un jour dans la province de Bandundu, spécialement à Kikuit.
Voilà, cette question de Benjamin Bizouri qui a appelé de Bukavu, dans le seul qui vous voulez avoir une idée sur le choix des aliments qu'on donne dans les cantines scolaires aussi. Pensez-vous que le système de cantines scolaires contribue à l'amélioration des performances scolaires?
Oui, le choix des aliments d'abord. On se base sur... c'est un programme scientifique. Quand on le fait, il y a des nutritionnistes qui sont là-dedans. Et pour qu'on donne un repas équilibré est composé de protéines, de glucides et de lipides. Et quand vous regardez dans les aliments qu'on donne, et on donne la farine de maïs ou le riz, c'est un aliment. On donne des haricots, les haricots ou des petits pois produisent des protéines. On donne l'huile végétale qui donne de l'énergie. On donne du sel iodé. Donc ce repas préparé, c'est un repas équilibré et un repas nutritif recommandé qu'on prendrait de très bonne manière et qui apporterait tous les éléments nécessaires à l'organisme. Donc voilà comment on choisit ce repas. Bien sûr, si on s'est lancé dans des choix de protéines animales comme la viande, le poisson, ça coûterait trop cher parce que les PAM travaillent sur base des dons qu'ils reçoivent de par le monde, par les donateurs. Donc, on donne ce qui est nécessaire, simple à trouver, mais on garantit un repas riche et un repas équilibré tel qu'on nous le recommande.
Et voilà. Un tel système contribue à améliorer les résultats scolaires?
Bien entendu. Pendant les 5 ans de ce programme que nous avons à Ituri, les résultats sont très probants. Et d'ailleurs, ce qu'on a constaté, au début de chaque année scolaire, les parents veulent inscrire leurs élèves dans des écoles où il y a des cantines scolaires. Et le, entre autres résultats qu'on a obtenus, je vous ai dit par exemple dans les territoires de Mambasa, les taux de fréquentation scolaire a sensiblement augmenté chez nos compatriotes pygmées. La régularité à l'école est garantie. Les enfants viennent le matin, ils commencent à 7h30 jusqu'à 12h30 quand le cours se termine. Ils sont toujours à l'école, ils ne fuient pas, alors qu'autrefois, les enfants venaient, ils marquaient la présence, mais à 10h, ils ont faim, ils disparaissaient dans la matière.
Voilà.
Donc, voilà,
donc, bon.
Et les taux de réussite aussi a sensiblement augmenté. À l'époque, selon les premières évaluations que nous avions faites, les taux de réussite dans ces écoles avoisinaient les 50%. Mais actuellement, c'est entre 75% et 85% qu'on obtient comme résultat. Ce sont là des résultats probants, comme j'ai dit, les parents, les élèves, les écoles, les responsables de l'enseignement primaire sont très contents et partout on en demande.
Voilà, on va vous retrouver tout à l'heure. Nous avons des auditeurs en ligne. Adrienne Namouye qui nous appelle de Lubumbashi. Maxime Mukendi est à Lubumbashi aussi. Et Célestin Wangachumu est à Académie, dont tous les trois sont dans la province du Katanga. Adrienne Amouyeti, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour aussi au docteur Jean-Claude Tetika.
Non, c'est le docteur Freddy Mbakata. Bon, allez-y Adrienne, allez-y.
Freddy okay, Mbakata, merci, oui. Docteur Freddy. Moi, dans l'introduction, M. Freddy a dit que, même les commentaires de Marcel, vous avez dit que dans des écoles où il y a les programmes alimentaires, les parents et même les élèves sont vraiment attirés. Donc, les parents sont attirés d'amener leur enfant dans des genres d'école. Alors, moi, j'aimerais savoir, M. Freddy, quand vous nous dites ça, vous ne voyez pas que c'est vraiment un danger pour d'autres élèves qui commencera à partir à l'école, non pour étudier, mais juste pour manger. Alors, ma deuxième question est de savoir, concernant les critères que vous nous avez cités là, si une école manquait même des critères, est-ce qu'il y a moyen de la sélectionner? Merci Marcel, merci au savoir-faire des Berry Franklin, merci.
Merci Adrienne Amouyeti, depuis le Lubumbashi dans le Katanga. Maxime Mukendi, vous êtes également dans la même ville et dans la même province. Bonjour Maxime.
Bonjour M. Freddy.
C'est M. Bon, voilà, allez-y.
Ok, je voudrais juste demander à notre invité du jour, oui. Est-ce que réellement la cantine scolaire permet aux élèves d'augmenter réellement leur conscience scolaire ou leur conscience intellectuelle?
D'accord, c'est la seule question, Maxime?
Non, il y a une deuxième question.
Allez-y.
Et le programme assure réellement un suivi sur les provisions données aux écoles qui remplissent les normes précitées, car nous connaissons bien que qui n'obéit au gouvernail obéit à l'écueil.
D'accord, merci Maxime. Docteur Freddy Mbakata va vous répondre tout à l'heure. Nous rappelons que vous avez appelé de Lubumbashi dans le Katanga. Célestin Wangachumo, vous êtes à Kalemi dans la province du Katanga. Bonjour Célestin.
Bonjour monsieur. Bonjour notre invité, monsieur le docteur, et bonjour à tous les docteurs de la radio. Je voulais dire quelque chose concernant les thèmes de ce jour pour les programmes de la cantine scolaire à nos écoles. Pour moi, qu'est-ce que moi je voulais dire? Ce n'est pas un bon programme pour nos écoles. Pourquoi? Parce que je dois avoir aussi des arguments à démontrer. Parce que ce programme a servi d'abord la qualité d'enseignement. Car ce programme a servi comment? Mais ce programme a servi lorsque vous souhaitez tout simplement d'avoir la farine dans l'école. Et vous verrez que tout le personnel enseignant qui sera agité, les directeurs, les enseignants, seront tous agités suffisamment à la farine qui est dans l'école. Et là, les enseignants vont commencer à abandonner les enfants, aller chercher comment avoir aussi à manger à la maison. Et vous verrez que les enfants seront abandonnés à l'école, seront abandonnés au début. Et c'est une façon d'affaiblir l'enseignement dans les cours. Pour moi, je suis d'accord
en effet, mon groupe peut réutiliser tous ces programmes dans ces pays. Je suis aussi d'accord avec Joseph Laurent Kabila qui réutilisait ces programmes. Moi, je vois une politique d'affaiblir, de nous affaiblir, pour que nous puissions être toujours derrière les Blancs.
Merci.
Qui nous amène la famille,
merci.
Qui nous amène toutes ces choses-là.
Merci Célestin, on a compris à votre préoccupation. Merci, vous appelez de Kalemi dans l'Ukatanga. On revient à vous, Dr Freddy Mbakata. Vous avez suivi, on commence avec Adrienne Amouyeti, qui a dit, vous ne craignez pas que les enfants, puisque dans ces écoles où il y a ce programme de cantine scolaire, on donne à manger aux enfants. Et Adrienne demande si vous ne craignez pas que les enfants soient plus attirés par le fait seulement de manger que plutôt de bien étudier.
Non, je veux dire à notre sœur Adrienne que ces craintes ne sont pas vraiment fondées. Parce que les parents expliquent aux enfants pourquoi il est important pour eux qu'ils puissent étudier. Hein, les parents envoient leurs enfants à l'école pour leur donner une bonne instruction,
oui,
afin qu'un jour, quand ils sont diplômés, qu'ils puissent être compétitifs sur le marché de l'emploi. Donc, les objectifs, les buts pour lesquels les parents envoient l'enfant à l'école est très bien connu. C'est pas pour aller manger, parce que si c'est pour aller bien manger, bon, les parents qui ont des moyens garderaient leurs enfants chez eux à la maison. Non, les enfants partent pour étudier. Mais on fait un constat. Il y a des enfants qui sont issus de familles très pauvres, où les parents n'ont même pas $1 par jour pour nourrir leurs enfants. Malheureusement, c'est dans ce genre de famille où on trouve un nombre élevé d'enfants. Une famille qui a par exemple 6-7 enfants, c'est une famille où les parents ne travaillent pas, sont des chômeurs, et ce programme ne fait qu'aider. L'enfant arrive à l'école, non pas pour qu'il aille manger, il vient étudier, mais le programme lui apporte un plus pour soutenir son attention, afin qu'il ne puisse pas dormir, qu'Adrienne puisse se souvenir, je ne sais pas dans quelles conditions elle-même a pu étudier, mais assurément elle connaît des gens qui partent à l'école sans avoir pris un petit repas, même pas une tasse de thé. Ils vont comme ça, et parfois les enfants font en milieu rural 10 kilomètres parfois au-delà pour aller étudier.
Oui, c'est
alors
vrai,
comment,
c'est pénible, oui.
Oui, comment oui. Voulez-vous un enfant qui n'a pas mangé, qui fait plus de 10 kilomètres pour aller à l'école, il arrive en salle de classe, l'enseignant est en train de donner cours, lui s'endort, il est fatigué, il n'a pas de l'énergie, il ne suit pas. Et quand cet enfant-là échoue, on va dire qu'il n'est pas intelligent. Non, il n'a pas été mis dans de bonnes conditions pour qu'il puisse réussir. Donc, le programme n'arrive que pour aider. Loin de là, de dire que les enfants seront attirés pour aller à l'école parce qu'on donne des repas. Non.
Et pour rebondir sur cette question de Célestin, qui appelait de Calémie, qui voulait savoir, vous ne craignez pas non plus que ça perturbe un peu le cours normal des enseignements dans une école, parce que peut-être que les enseignants chercheront également à s'accaparer de la farine. Vous dites quoi, Célestin?
Non, peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas dit au départ. Hein. Les enseignants font partie aussi de ce programme.
D'accord.
Les enfants mangent, tout comme les sentinelles. Tout le personnel qui travaille au sein d'une école sélectionnée, ce personnel a droit au repas au même titre que les enfants. Donc la crainte n'est pas de mise. Alors, quand il dit qu'on va pouvoir créer une certaine différenciation entre les écoles qui sont à ce programme et d'autres, non, ce que nous avons constaté, ce sont des facteurs stimulants. Les écoles qui n'ont pas été sélectionnées une année donnée, parce que ne remplissant pas les critères que j'ai cités ici, l'année suivante, on voyait que le comité de parents, les promoteurs de l'école, faisaient un effort pour remplir toutes ces conditions. On trouve des installations hygiéniques, on trouve des bâtiments de meilleure qualité, on trouve un point d'eau ou un robinet qui a été installé, parce qu'ils espèrent entrer dans ce programme. Donc c'est stimulant. Les autres écoles qui n'ont pas été sélectionnées font tout avec le comité des parents pour qu'ils soient éligibles. Donc c'est un plus, il y a de la compétitivité et il y a un essor de l'enseignement, donc de la qualité de l'enseignement.
Et on va finir avec cette question de Maxime qui voulait s'assurer si les repas sont toujours de très bons repas, de bonne qualité, puis il y a un suivi pour s'assurer que les repas sont régulièrement servis.
Oui, les repas sont régulièrement servis parce que le programme alimentaire mondial donne des vivres pour tout un moi, c'est bien stocké dans à l'école et les responsables de l'ONG font les suivis. On voit comment on prépare, comment on donne des repas.
Et je voulais juste vous rappeler, hein, c'est constitué de quoi? Parce que vous l'avez dit au départ, il y avait de maïs, du riz.
Bon, c'est-à-dire on donne soit la farine de maïs, oui. Ou le riz, oui. On donne l'haricot ou le petit pois, on donne de l'huile, on donne du sel, et les comités des parents et les écoles, et même en plus de ça, développent des jardins potagers pour ajouter des légumes à ce genre de repas. Est-ce que le repas est de bonne qualité? Ce qui est important ici, je dois dire que le repas est de bonne qualité parce que c'est un repas complet, un repas riche tel que l'OMS le recommande, parce qu'on trouve tous les éléments qui constituent un repas de bonne qualité et en quantité et en qualité. On trouve des lipides, on trouve des glucides, on trouve des protéines. Donc, tout y est. Je peux dire que le repas est de bonne qualité.
Donc, il n'y a rien à craindre par rapport à ça. En tout cas, Dr. Freddy Mbakata, nous rappelons que vous êtes spécialiste en santé publique. Vous étiez notre invité pour commenter les sujets sur comment promouvoir les cantines scolaires. Et vous avez été notre invité, notamment par rapport au fait que vous êtes responsable d'une ONG qui travaille dans le cadre de ce programme des cantines scolaires. Pour bien rappeler le nom de l'ONG, peut-être un numéro de contact pour ceux qui seraient intéressés par ce que vous faites.
Oui, l'ONG s'appelle l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. Nous avons un site web qui est www.ades.org et le numéro de contact c'est le 081 180 49 08.
Vous avez bien répété
081 180 49 08. Ça c'est le numéro de téléphone.
Docteur Freddy Mbakata, merci.
C'est moi qui vous remercie.